Les Cascodeurs Podcast, épisode 81. La NSA nous écoute depuis 4 ans. Enregistré le 17 juin 2013.
Bienvenue sur l'épisode de 81 des Cascodeurs Podcast. Nous sommes le 17 juin et ce n'est pas Emmanuel Bernard qui parle. Eh bien non, c'est Guillaume. Donc bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous avoir une nouvelle fois parmi nous. Si vous entendez des petites musiques pour enfants, ne vous inquiétez pas, c'est la nounou Emmanuel qui s'en occupe. Voilà. Si vous entendez, on essaie d'établir une certaine atmosphère sonore dans cet épisode.
Voilà, on en avait marre de la musique initiale, donc maintenant c'est...
c'est les petites berceuses maintenant. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Déjà, on voulait donner un petit coup de pouce.
Attends, avant, je tiens...
Non, c'est pas ça.
Non, mais avant, je tiens à dire...
C'est quoi ? Oui, vas-y.
Moi, je me bats avec un enfant pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Et pendant ce temps-là, Arnaud, sous prétexte qu'il n'a plus d'accès Internet, il vient pas. Et Antonio, on sait même pas pourquoi, mais il vient pas aussi.
Alors, ouais, parce voilà. Que soi-disant, il fait du vélo sous la pluie ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu fumeux,
tout
ça. Il y a
une putain de tempête sur l'île de France.
Il est passé tout à l'heure, c'était terrible. Avec grêle et tout, là, c'était la totale. On aurait dit qu'il faisait nuit à 10h du matin.
Ouais, exactement.
C'était quelque chose, en tout cas.
Ouais.
Alors, on voulait donner un petit coup de pouce à des petites initiatives sympas, c'est bien ça, Emmanuel ?
Ouais, bah, moi, j'ai vu deux podcasts. Le premier, c'est un truc qui s'appelle Une tasse de thé podcast, qui est par Éric Lefebvre-Ardan, et qui, je crois que c'est 15 minutes ou une demi-heure maxi sur une interview donnée.
Tu veux dire qu'ils voulaient se distinguer de la longueur des cascodeurs ?
Non, mais je trouve bien, justement, j'ai fait un blog là-dessus, je crois que c'est un quart d'heure. Hein. Et c'est sympa parce que du coup, ils se forcent à rester sur un sujet bien précis, etc. Donc c'est vraiment différent de nous qui pouvons parler pour ne rien dire pendant
live.
Trois quarts d'heure, voilà. Et donc voilà, bah, c'est toujours dur de démarrer un podcast, donc bon courage à lui, et puis allez voir si ça vous intéresse, si au lieu d'aller prendre un café et de parler de Love Story, vous allez pouvoir écouter le podcast par exemple.
T'es sûr que c'est Love Story ? Non, c'est pas c'est Secret Story, je crois, en ce moment, c'est
ouais.
Ça
ouais, avant c'était The Voice, mais ils ont fini, alors c'est la lose, je sais plus, je suis plus à jour. Voilà, et puis le second, c'est Nip Dev. Alors, j'ai écouté que les 10 premières minutes, mais c'est les gens qui font Nip Tech, dont j'avais déjà parlé avant, un podcast qui était sur les startups et l'inspiration. Et puis, Fabrice, donc un des membres de Nip Tech, a créé Nip Dev pour se focaliser plus sur les développements. D'ailleurs, il a parlé de nous au début, donc c'est cool.
C'est gentil, merci.
Voilà.
Alors, passons aux news maintenant. Au niveau des conférences, là, on a eu... Apple World, là, le WWDC,
ouais.
Et puis aussi le Red Hat Summit.
Ouais.
Par quoi on commence ? Apple, WWDC.
Ouais.
Donc, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont annoncé de beau ? iOS 7.
Ouais.
Avec un look assez flat.
Ouais.
Et des icônes qui sont très moches, apparemment. Enfin, ce qu'on en voit, en tout cas.
Bah, disons que du coup, il y a.
Il
n'y a plus le côté un peu. 3D poli ou autre chose comme
voilà,
ça, donc
dégradé,
il faut travailler
ça.
Un peu plus. Donc ils ont des couleurs, genre ils ont
plus
fumé
flashy.
Sévère, voilà.
Ouais.
Et à partir de là, ils ont fait une interface.
Mais c'est vrai que bon, les icônes sont quand même moins léchées, j'espère qu'ils vont quand même les retoucher un petit peu.
Ouais.
Mais sinon, il y a des petits effets assez sympas, avec la transparence, avec l'espèce d'effet 3D où tu vois tes icônes qui bougent au-dessus du fond d'écran et tout ça.
Ouais,
il y a
voilà,
des petites choses qui ont l'air assez sexy quand
ils
même.
Ils définissent des notions de couches, donc il y a notre fond d'écran tout derrière, ensuite
ouais.
Les icônes, ensuite l'application, ensuite éventuellement le clavier encore par-dessus. Et quand on tourne
quand on bouge, quoi,
quand on bouge, voilà, avec l'accéléromètre,
ça fait la parallaxe.
Voilà, ça fait un peu de la parallaxe, c'est la fausse parallaxe. Et du coup, bon, ouais, ça donne un petit effet sympa. Moi, je l'ai
un
vu parce qu'il y a
3D.
Des gens qui l'avaient installé
devant
moi, donc j'ai pu jouer un petit peu avec. Bon, ça crache hein, pour l'instant.
Ah,
donc
oui.
Je ne recommande pas de l'installer, ça plante
d'accord.
Un petit peu, mais bon, il y a pas mal de rattrapage, moi je trouve, par rapport à Android, notamment pouvoir éteindre le Wi-Fi directement
ouais.
Au lieu de descendre 50 niveaux de...
Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça fait un peu
plus rattrapage que de grandes innovations, j'ai l'impression, quand même, dans cette version-là.
Mais sinon, pour les développeurs, moi, j'ai trouvé... Ils ont parlé du travail qu'ils faisaient en termes d'approche multitâche et de choses comme ça.
Ça rappelle le multitâche d'Android, d'ailleurs, l'interface, en tout cas.
D'accord. Non, mais au niveau technique, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont... Quand ils vont devoir réveiller, par exemple, l'appareil parce que ils voient un push notification, en fonction de la popularité de l'application chez vous, donc vous la regardez toutes les 5 minutes versus toutes les heures versus jamais, ils vont redonner un petit peu de temps de CPU. Ils se disent tant qu'on, du coup, comme on a démarré la machine, autant donner un peu de temps. Pareil pour le GPS. Ah bah vu qu'on a récupéré les données GPS, on va les refiler à toutes les applis qui en ont besoin et leur donner un peu de temps de travail.
Ouais, c'est pas mal fait, ça.
Et l'autre truc, c'est au niveau des notifications. Donc, quand tu reçois une notification, normalement, tu cliques et puis t'arrives dans l'appli et puis l'appli, faut qu'elle trouve l'information. Là, dès qu'ils vont recevoir la notification, ils vont appeler l'application en background. Comme ça, elle va avoir le temps de se rafraîchir et toi, quand tu vas finir par cliquer pour aller voir, il y aura déjà l'information. Donc, voilà, des petits trucs un peu sympathique à ce niveau-là.
Mais côté aussi OS X, là, dans les nouveautés, là, avec OS X Maverick, donc c'est plus les animaux, là, c'est les...
Non. Enfin, ça dépend, parce que s'ils prennent Goose après...
Ouais. Et... Mais bon, Sea Lions aussi, remarque, c'était quand même assez californien, là, vu que t'as les Sea Lions sur le pire de San Francisco.
Ils ont fait pas mal de blagues.
Une transition assez sympathique.
Ils ont fait pas mal de blagues, hein, sur le changement de nom, sur... Ils ont arrêté le skeuomorphisme.
Ouais, ce qui est bien, parce que du coup, ça donne... Donc, skeuomorphisme, ça, c'est le fait que les applis ressemblent
à des choses
à
réelles,
ce dont elles sont censées nous faire rappeler. Donc, un agenda, un calendrier, ça ressemble à un vrai calendrier ou un agenda, etc. Ou du genre, dans Game Center, l'interface pour les jeux, t'as l'impression d'être dans une table de blackjack ou autre. Donc ça, ils abandonnent ça et du coup, on a un look and feel assez homogène. Et
ils disaient aucune vache virtuelle n'a été tuée pendant la création de cette interface.
Et donc, en parlant des améliorations au niveau utilisation de la batterie, tout ça, ils ont l'air d'avoir fait aussi pas mal de choses là-dessus pour pouvoir prolonger la durée de vie des batteries sur les... Enfin,
pareil.
Quand on est en portable,
justement, par exemple. Techniquement, ils parlent d'un truc qui s'appelle Time Coalesce. Où l'idée, c'est de dire, au lieu de réveiller, d'être à 100% de CPU, 1000 fois dans les 3 secondes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre et ensuite balancer tous les besoins de CPU d'un coup pour pouvoir remettre en pause les CPU. Comme les CPU, maintenant, savent se mettre en très basse consommation quand ils ont rien ou quasi rien à faire. Voilà, et apparemment, ils ont pas mal travaillé à ce niveau-là.
Mais c'est assez fou d'ailleurs parce que en fait, tu sais, tu peux te dire sur la durée, sur des minutes, du genre t'es loin de ton ordinateur et tout. Mais je veux dire, ils font ça, la coalescence d'instructions, ils font ça, je veux dire, dans la seconde et simplement dans une seconde, ça veut dire que ton CPU est capable de, enfin pas de dormir, mais en tout cas de baisser vraiment sa consommation pendant des fractions de secondes. Voilà. Tu vois, c'est pas juste dans la durée. Ça, je trouve ça.
T'es pas obligé d'attendre 10 secondes avant qu'il s'éteigne vraiment, etc. C'est vraiment en subseconde, il est capable d'économiser de l'énergie.
C'est fou ça. Ouais.
Fait des micro-siestes.
Des micro-siestes. Ouais. on fait pareil pendant le podcast.
C'est ça. Bon. Donc moi, c'est ce que j'ai trouvé de sympa niveau technique. Après, moi, au niveau de la présentation de notamment de Maverick, là, le nouveau macOS, il y a pas mal d'intégration avec le reste. Moi, j'ai pas migré à Mountain Lion, par exemple, parce que j'ai pas trouvé l'utilité. D'accord. Et par contre, le
Mais
prochain
tu vas
a l'air sympathique.
Pour pouvoir passer à Maverick, tu vas être obligé.
Je crois.
Je sais pas,
on va voir. Ouais.
C'est pareil, je pouvais pas migrer sur le vieux MacBook parce que j'étais pas passé à Snow déjà. Donc du coup, faudrait.
Ah oui, mais Snow, c'était pour avoir l'App Store.
Ouais.
Bon, enfin bref, je verrai bien à ce moment-là. Mais il y a notamment les notifications quand tu cliques, c'est bon, je l'ai vu, qui s'enlèvent sur tous tes matériels. C'est plutôt sympathique.
Ouais. Et sinon, c'est pour faire une jolie transition, en parlant matériel, qu'est-ce que vous pensez de la poubelle Mac Pro, là, version...
Ah non, c'est le Darth Pro, on appelle ça.
Comment t'appelles ça?
Darth Pro.
D'accord.
Parce que ça ressemble au casque de Dark Vador, et surtout quand ils ouvrent au-dessus, t'as le triangle, tu sais, de la bouche de Dark Vador.
Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de... J'en ai revu encore une hier ou ce matin, je sais plus. Une photo d'un mec qui avait pris, par exemple, une poubelle qui est chez Starbucks, chez oui, Starbucks, qui ressemble justement au Mac Pro, une belle poubelle noire.
D'accord.
Non, moi je trouve ça joli.
Ouais, non, mais c'est joli.
Le truc, c'est que ça va être encore 10 000 dollars, donc ça va pas être dans mon
budget. C'est ça, il y a pas les prix, ils sont pas annoncés, donc.
Ouais.
Mais si j'avais à prendre un desktop bien puissant et si c'était dans des prix raisonnables, tu vois,
c'est vrai que ça
c'est bien
être ça,
pour,
ouais.
Pour ça. Par contre, si tu veux racker tes serveurs, bon, bah là, c'est.
Non, mais ça, ils vont faire super cher.
Ça roule à l'infini, tu sais.
Ils vont faire super cher, de toute façon, c'est sûr. Ça, c'est le problème.
C'est vrai que ça a l'air d'être une belle bête, quand même.
Il y avait un. Bah c'est Ars Technica qui a fait une revue de ce truc-là et ils vont perdre des gens en termes de MacBook Pro sur l'extensibilité parce que tout est extensible mais à partir de Thunderbolt donc tu peux pas ouvrir pour rajouter les cartes ou des choses comme ça. Ensuite les GPU ils sont il y en a deux dedans qui sont apparemment très bien mais si c'est pas ce que tu veux t'es de la baise et tu notamment je sais plus il y a des applications qui sont optimisé non pas pour OpenCL qui est leur langage qui permet d'utiliser le GPU, langage de programmation, mais pour un truc qui s'appelle CUDA,
je lance Google. CUDA, je crois.
Ouais.
Ouais, CUDA.
Et CUDA, il n'y a pas d'implémentation pour les cores qu'ils ont choisis.
Ah,
pas d'implémentation qui marche bien en tout cas. Voilà.
D'accord.
Voilà. Donc on va pas rester sur WWDC, mais voilà, il y a. Bon, ils ont annoncé quand même pas mal de petits trucs, mais rien avant.
iTunes Radio. Voilà. Mais par exemple, moi, ce qui me manque côté hardware, ce serait les écrans Retina de partout, quoi. Donc, quand ils vont sortir un écran externe Retina, par exemple, ça me donnerait bien envie.
Et moi, j'attends Haswell aussi au niveau.
Ouais.
Au niveau, comment on appelle ça, processeur.
Ouais. Parce qu'en attendant Haswell, on est has-been, c'est ça?
Voilà, on est as not too well, tu vois.
As not well.
Voilà.
Mais bon, à part
mais surtout,
Apple World.
Voilà, Apple World, bon, c'était un détail, mais il y avait Red Hat Summit.
Red Hat Summit, que tout le monde était pendu aux lèvres.
Voilà. Non, et sûrement, il y avait.
Que s'est-il passé?
Red Hat Summit. Bon, pareil, je vais pas parler de tout, hein, parce que d'abord, j'étais occupé à faire mes trucs. Mm-hmm. Mais surtout, avant Red Hat Summit, il y avait un truc qui s'appelait JUTCON, Java User and Developer Conference, qui est le truc plutôt orienté développeur communauté. Et au même endroit, il y avait Camel One. Avec tous les technologies d'intégration d'Apache, donc il y avait James qui était là et on a parlé un peu tous. Et donc les deux conférences, JetCon et Camel One, étaient ensemble au même endroit. Donc les gens pouvaient aller de l'un à l'autre. C'était sympathique.
Ouais, bien fichu.
Yes. Voilà. Sinon il y a Rel qui annonce. C'est dommage que Arnaud soit pas là. Mais il y a MySQL, on va apparemment par défaut utiliser MariaDB et non plus MySQL dans RHEL 7. Donc c'est pas le premier switch hein, de gens qui abandonnent MySQL pour passer sur MariaDB. Mais voilà, ça continue un peu le trend et donc les gens qui ont redémarré, enfin qui ont démarré MariaDB et démarré une société derrière, qui ont mergé avec une autre, je me rappelle plus SkySQL, un truc dans ce goût-là. Voilà, visiblement, ils ont le vent en poupe techniquement.
Ouais, moi j'ai entendu ça il y a un mois seulement. J'avais pas entendu parler de MariaDB avant.
Ouais.
Par quelqu'un de la communauté XWiki, un committeur qui proposait de switcher effectivement le support dans XWiki à MariaDB ou en tout cas d'indiquer qu'on le supportait. On a rajouté le support en addition de MySQL.
Ouais, bon, a priori, au niveau syntaxe, etc., ça reste MySQL de toute façon. Donc c'est plus au niveau des optimisations qui sont faites, etc., que ça change, non?
Bah, c'est censé être compatible pour le moment. Hein. Si tu regardes, c'est censé être tout compatible. Ouais. Après, en réalité, sais pas, j'ai pas essayé justement. Quand il m'a dit ça il y a un mois, j'ai dit ça sortait comme ça. Je dis c'est super récent. Faut peut-être attendre qu'il y ait un peu plus d'adoption, etc. Puis je vois Red Hat et tout, donc ça commence à bouger. J'en ai vu d'autres.
Ça fait au moins 2 ans. Je sais pas le détail, mais au moins 2 ans que j'entends parler de MariaDB. Mais j'étais comme toi, je me disais ça reste un peu sous le radar, etc. Mais non, il y a visiblement un chiasme qui a passé. Hein.
Ouais, effectivement.
Voilà. Voilà, sinon, au niveau serveur d'application, il y a Zero Turnaround qui a fait une présentation, une comparaison de différents serveurs d'application au sens large, parce que ça inclut Tomcat, Jetty, Glassfish, WebSphere, Liberty Profile et JBoss AS, maintenant Whitefly. Et on l'a gagné. Donc, gagner, c'est bien, mais surtout, aller lire l'explication, ils expliquent un peu les raisons, les points pour chacun en fonction des différentes, des différents, enfin, sujets. Donc voilà, c'est toujours un truc intéressant de comparer un peu les différents serveurs d'app. Voilà, sinon on a annoncé les prix OpenShift, il y a un plan, un Silver Plan, où vous payez, je crois, $20 par mois, plus après les trois instances virtuelles gratuites qu'on offrait avant. Et maintenant, vous pouvez, on a les prix, je sais plus si c'est 3 centimes et 10 centimes en fonction de la taille de l'instance virtuelle, à l'heure, je crois, qu'on paye par-dessus. Donc voilà, vous pouvez, si vous grossissez plus que les fameuses trois instances virtuelles qu'on vous offrait gratuitement, voilà, maintenant vous avez un chemin pour faire ça. Voilà, et ensuite, un autre truc qui est sorti à peu près là, enfin à Red Hat Summit, c'est un projet qui s'appelle WindUp, qui est fait par un consultant de chez nous et qui permet, alors à la base, il l'a construit pour migrer de WebSphere vers JBoss et de EAP, et de WebLogic vers JBoss EAP, mais c'est un système à base de règles qui dit, bah voilà, si t'as ça, tu fais la conversion vers ça, etc., etc. Donc on pourrait envisager même une version de un truc qui aide à migrer de, je sais pas moi, si c'était pas backward compatible, de Groovy 1 vers Groovy 2 ou de Hibernate 3 vers Hibernate 4 ou des choses comme ça.
Et comment ça fonctionne? C'est des, parce qu'ils doivent faire des modifications textuelles même dans des fichiers.
Ouais, je.
De conf.
J'ai pas zoomé.
Ce sera intéressant de regarder. D'accord. Ouais,
j'ai pas zoomé. Tu peux aller, c'est WindUp. Slack, ouais. C'est sur GitHub.
C'est dans GitHub, ouais, donc WindUp, ouais. WindUp. Ouais. Ok.
J'ai parlé à cette personne-là, malheureusement, j'avais déjà pas mal lu, donc je me souviens pas des détails.
T'as oublié.
Non, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, parce que nous, on définit notre migration dans un wiki, donc on explique les règles. Si on pouvait en automatiser certaines et, tu vois, afficher celles qui doivent être faites à la main, ça serait sympa.
Ouais, effectivement. Ça peut être pratique.
Voilà, et puis pour finir sur Red Hat Summit, il y a AeroGear, dont j'avais peut-être parlé un petit peu avant, qui a un projet qui aide à faire le lien entre les front-end HTML5 ou appli native Android ou appli native iOS, etc., et le back-end Java et JBoss notamment. Donc ça vous permet de définir des routes en disant, si l'URL c'est ça, tu te diriges vers tel truc sur le back-end, le binding CRUD sur REST. Pour les gens qui utilisent Backbone.js, c'est un peu similaire à ce niveau-là. Le transfert des informations de sécurité, donc grâce à Picket Link, on passe le token et on le garde sur plusieurs appels. Les one-time password, donc ils ont une implémentation et un support de one-time password. Et un autre truc qui est sympa, qui est le push server. Donc en fait, quand vous voulez pousser d'informations, quand on reçoit une notification sur notre iOS ou notre Android, en fait, ça passe par respectivement le serveur d'Apple ou le serveur de Google. Mais évidemment, ils n'ont pas les mêmes API, etc., etc. Donc si vous voulez une application qui supporte les deux, va falloir en gros appeler l'un puis l'autre en fonction, etc. Et ce serveur-là, le push server d'AeroGear, il vous permet d'homogénéiser ça et de dire, pour un utilisateur donné, j'ai ce genre de device, donc celui-là, et je vais pousser les notifications à cette personne-là. Donc vous avez une seule API pour à appeler. Et il supporte aussi un début de spec du W3C qui a été repris par Mozilla parce que ça allait pas assez vite, ce qui permet aussi de pousser les notifications dans le navigateur. Donc si vous avez une appli entre guillemets Firefox ouverte, une appli, un site web en fait, et que Firefox est ouvert, vous allez pouvoir faire une push notification. Par exemple, tiens, il y a un nouveau mail, ou tiens, il y a tel truc à changer, etc., etc. Donc ça, c'est sympa. Je crois que Safari le fait aussi indépendamment, parce qu'ils en parlaient un petit peu dans leur keynote. Donc on va peut-être avoir des trucs du genre, par exemple, je suis en train d'éditer ma page sur XWiki, puis je suis parti prendre un café. En attendant, il y a quelqu'un d'autre, Vincent, qui se met à l'éditer. Je vais pouvoir peut-être avoir une push notification qui me dit, tiens, il y a Vincent qui a commencé à éditer, puis ça y est, il a fini, pour avoir l'info un peu plus dynamiquement, plutôt que d'avoir à regarder la page. Ça pourrait avoir des aspects intéressants, à mon avis.
Attends, Vincent, il va dire, mais attends, ça existe déjà. Ah non.
Pas celui-là.
Pas celui-là. Mais c'est qu'une question de semaine.
Parce que maintenant, quand on t'a fait un feature request, il va falloir l'implémenter.
Grave, grave.
Bon, après, j'attends le Jira. J'attends le Jira, l'ouvrez, puis on verra.
Voilà. Donc ça, c'était les conférences. On va peut-être maintenant passer aux autres
un
sujets.
Un peu de Java.
Ouais.
Par exemple, donc avec l'arrivée de Java 9, on va plus pouvoir compiler en un 4 et un 5 avec un JDK 9. Vous avez vu ça?
Ouais, c'est une proposition, hein, donc c'est pas sûr.
Oui, ça veut pas dire que c'est voilà. Encore.
Mais vu que ça vient de Brian Goetz, mais... il y a quand même plus de chances que si ça venait de moi.
Ouais.
On va dire. Et moi, je sais pas si je m'en fiche parce que.
Bah, si on s'en fiche, attends, 9, ça c'est-à-dire qu'on va pas utiliser avant 6 ans déjà. Dans 6 ans, t'imagines Java 1.5.
Ouais. Mais ça va leur aider à quoi? Ça a optimisé la VM en la simplifiant? Ou le compilateur, c'est sûr, ça va simplifier parce que...
Ben voilà, ouais. Donc si après tu peux arriver à supprimer des if et, ouais. Et des branches else, du coup, à mon avis, tu dois quand même diminuer la complexité du code, simplifier le code, etc.
Ouais.
Et d'ailleurs, là, je le rajouterai dans les show notes. Je vais vous l'envoyer en même temps en parallèle dans notre chat. On avait fait un petit sondage là de qui utilise quelle version du JDK.
Ouais, c'est intéressant.
Donc avec mon collègue Cédric, puisqu'on se demandait, parce que jusqu'à présent en fait Groovy, on peut encore le faire tourner sur JDK 5, et on se demandait si pour la prochaine version Groovy 2.2 voire Groovy 3, mais qui n'est pas encore sorti pour tout de suite, qui c'est qui utilisait encore Java 4, Java 5, 6, 7, 8.
Ouais.
Et en fait, donc il y avait trois questions. Quelle version de Java vous utilisez en production? Quelle version de Java vous utilisez en développement? Et quelle version de Java planifiez-vous d'utiliser dans les 12 prochains mois? Et donc déjà, Java 4, encore une chance, il n'y a plus personne qui l'utilise. Ouf. Par contre, Java 5, tu vois, en production, il y en avait quand même encore 4%.
Bah, c'est rien du tout.
Donc, il y en a. Et oui, c'est rien du tout, c'est pas grand chose.
Hein, je suis même étonné que ce soit si bas d'ailleurs. Bah, à mon avis, ça dépend des. C'est les personnes qui répondent, c'est un peu biaise un peu le.
Après, c'est les gens qui peut-être utilisent aussi. Groovy, hein. Donc,
ouais, c'est ça. Ça biaise.
Alors, c'est vrai que bon, même si, voilà, comment dire, j'ai partagé ça. Moi, j'ai beaucoup de followers pour Groovy, évidemment. Mais bon, il y a aussi des gens. L'écosystème Java qui ont.
Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens après, plutôt techniques, je pense. C'est pas tant lié à Groovy que c'est des gens. C'est les techos qui répondent, à mon avis.
Oui, c'est des techos. Mais, je veux dire, c'est pas. La question n'était pas forcément tournée par rapport à est-ce que.
Oui, sur leur machine.
Si Groovy
ouais.
abandonne tel truc.
Ouais.
Donc, je veux dire, on a essayé d'être un petit peu neutre là-dessus. Enfin, la seule chose, il y a quelqu'un qui m'avait remonté cette remarque-là, c'était. Qui n'était pas neutre dans la manière de poser la question, c'était à côté de Java 4, 5 et 6, entre parenthèses, il y avait écrit End of Life, octobre ouais. 2008, etc. Du coup, les gens se sont dit, ah ouais, c'est vrai que c'est End of Life, peut-être qu'il ne vaudrait mieux pas que je dise que je l'utilise.
Ah, c'est la loue si je l'utilise.
Ça peut influencer éventuellement. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais donc, bref, il y avait voilà, 4% personnes qui utilisaient encore Java 5 en production. Par contre, côté, donc toujours production, hein. Java 6 est utilisé à presque 60% et Java 7 à 40%. Et les pourcentages sont inversés en mode développement, c'est-à-dire Java 6, ça faisait aller 35% et Java 7, 63%. Donc on voit bien que les développeurs sur leur machine, sur leur...
Ce qui est moche, c'est bien qu'ils ne testent pas et qu'ils se mettent en prod.
Ouais, ouais. Bah, ça veut pas dire... Alors aussi, au niveau des choix de questions... Enfin, des réponses, pardon, c'était un radio button, c'était pas un checkbox, donc ça veut pas dire qu'ils testent pas forcément dans les deux éventuellement. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à pas le faire et puis à se reposer sur le Continuous Integration Server pour faire le build en 6 pour voir. Parce que nous, par exemple, côté Groovy, c'est vrai que on développe sur nos machines avec le JDK 7. Mais on teste avec différents plans sur le serveur d'intégration. Mais malgré tout, ça nous arrive d'utiliser, je sais plus, par exemple, quand il y avait la méthode contained sur string qui était pas en 1.5, ah mince, on a pété le build d'intégration parce que on avait oublié que, tu vois.
Ouais, nous, ça nous arrive aussi de temps en temps, genre, ah ouais, c'est vrai, ah mince. Parce qu'en fait, faut se rappeler, hein, quand on fait --source --target, en fait, ça compile pour que le bytecode soit compatible, mais après, ça te garantit pas que tu utilises pas des méthodes qui sont qui n'était pas encore là à l'époque.
Exactement. Donc bref, je pense que ça... Je ne sais pas effectivement si la proposition sera acceptée ou pas, mais bon, à un moment, de toute façon, il faudra bien supprimer les vieux trucs, quoi.
Ouais, donc à mon avis, moi, le 7, ça va être passé, on va y passer l'année prochaine, pour expliquer, hein, mon avis, mon feeling, 2014. Donc après, le 8 et le 9, 4 ans encore minimum, après ça.
Bah ouais.
Nous, c'est cette année.
À moins que comme s'ils se rapprochent, qu'il y ait des skips, c'est-à-dire tu skips une version pour passer direct à une autre.
Bah, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de gens qui ont skippé, par exemple, de 1.4 vers 6 ou voire 1.5 vers 7. Donc je pense que ça se fait un peu plus, mais c'est aussi parce qu'on a eu quand même des gros gaps entre les versions, peut-être au niveau temps. Je sais pas.
Tu vois, la 7, je suis pas super convaincu qu'il y ait beaucoup de choses par rapport à la 6, alors que la 8, ça va faire pas mal de changements.
Bah, il y en a au runtime, hein, parce qu'il y a le hip qui disparaît là, c'est.
Ah oui, non, mais ça, c'est pas sur la 8. C'est plus tard. Oui. Exactement.
Ouais, sur la 8.
Ouais. Ok. Tiens, au fait, rapide, AppSpot, on t'avait un petit peu râlé au niveau des changements de prix, parce que ton blog te coûtait
ouais,
de l'argent.
Oui.
Et alors, ça s'est résolu ou.
Bah écoute, il me coûte plus rien. D'accord. Donc entre, alors il y a plusieurs choses déjà. De toute façon, j'avais fait des optimisations.
Ouais.
Et puis une fois ces optimisations faites, il a dû m'arriver quelquefois d'être au-delà du quota, mais assez peu souvent. Et puis ensuite, en fait, ils ont aussi optimisé leur scheduler et load balancer et tout ça, ce qui fait que du coup les instances sont utilisés, je dirais, au mieux, et du coup je suis plus hors des clous, donc ça va. D'accord. Ou alors ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui va sur mon blog.
Ouais.
Ça peut être une autre chose, mais non, donc de ce point de vue là ça va. Après, ça dépend du type d'application aussi que tu as. Par exemple, pour mon blog, ça va très bien. Par contre, pour d'autres choses, par exemple, toi qui es un petit bébé, moi j'ai fait un site pour partager les photos de mes filles,
ouais,
et les vidéos. Et par exemple, les quotas pour charger la bande passante, etc., des photos et des vidéos, par exemple, ça c'est des quotas qu'on atteint assez facilement.
D'accord.
Donc du genre, l'autre jour, mes parents qui ont voulu re-regarder toutes les photos de la naissance à aujourd'hui... Ils ont pété tous les quotas.
Malheureux.
Ils ont pété tous les quotas.
Maman, qu'est-ce que t'as fait? Nous a coûté 50 euros en une journée là.
Donc c'était assez rigolo. Ce qu'il y avait après, je crois que c'était mes beaux-parents. Ouais, mais l'application elle marche pas. Ah oui. Effectivement, là les quotas ont été pétés.
Après, vous pouvez envoyer vos dons.
T'expliques les quotas.
C'est gratuit, on paye pas, mais c'est limité. Alors bon, on peut pas. On est un peu embêté, quoi.
C'est clair.
Mais bon, voilà, non, donc on n'a pas. J'ai pas trop de soucis là-dessus, ça marche bien avec les optimisations que j'ai faites et que eux ont fait côté scheduler, etc.
D'accord.
Donc c'est plutôt
pas comme
Heroku
ouais. Qui avait foutu la grosse douille au niveau
de. C'est notre histoire. Ouais. Et donc pour revenir sur les application servers, l'entreprise et tout ça, transitionnons vers l'entreprise peut-être avec Java E7 et ce qui est...
Ouais, bah, en fait on l'avait déjà annoncé hein, avec Antonio la dernière fois, donc on avait dit ça y est, Java E7 est sorti, mais en fait ils n'avaient pas encore sorti le TCK et l'implémentation de référence, tout ça, etc. Donc là, ça y est, c'est fait, et du coup, ils ont fait un webcast qui va bien. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir pour, je crois qu'il y a des présentations sur chacune des technologies un petit peu phares. Moi, je sais que j'en ai fait une pour eux. Donc, si ça vous intéresse sur un sujet donné, bah, vous y allez. Je crois que ça dure un quart d'heure, maxi 20 minutes chacune. Donc, vous n'allez pas non plus vous endormir. Voilà. Voilà. Et puis sinon, ouais, j'ai trouvé un petit article intéressant pour les gens qui utilisent CDI et qui veulent utiliser la technique d'approche des événements mais pour envoyer des messages JMS. Ben, y a un petit blog qui explique comment faire ça en une vingtaine de lignes au lieu des 1000 lignes qu'il fallait sur la version d'avant. Donc, intéressant de voir les petits progrès.
Mm-mm. Cloudera, tu voulais dire quelque chose aussi là-dessus?
Ouais. Oui, alors il y a, si j'ai oublié, JBoss Tools qui sort des trucs intéressants pour les gens qui se mettent à qui font des développements HTML5 ou appli hybride ou native, etc. Il y a des petites additions intéressantes. Alors deux têtes, notamment. Il y a, je crois qu'il y a un support de Cordova sans que vous, par exemple, vous n'êtes pas sous le Mac. Vous avez comme, même si votre application est censée builder sous iOS, vous allez pouvoir travailler sous Windows, sous Linux ou sous Windows avec un truc qui simule en gros ce que Cordova va faire. Et puis après, vous aurez juste à avoir un serveur qui va physiquement faire le build de votre application pour créer un, en gros, littéralement du Xcode, et puis le compiler ça en une application iOS. Je crois qu'il y a BrowserSim aussi qui permet de faire les tests sur les différents navigateurs, etc. Donc ça, c'est toujours un petit peu utile. Voilà, et puis pas mal de des améliorations de performance aussi, je crois, au niveau de d'Eclipse en général. Et je voulais profiter de ça parce que moi, j'ai pas mal travaillé ces 15 derniers jours dans Eclipse. Donc c'est pas mon IDE de base, hein. Mes idées de base, c'est IntelliJ IDEA et puis Vim.
Vim.
Voilà. écoute, j'en suis pas ressorti malheureux ni frustré, donc bon travail. Alors, j'ai utilisé JBoss Developer Studio qui est Eclipse plus un certain nombre de choses au-dessus. Pour ajouter en l'occurrence une fonctionnalité sur une application existante, et c'est vrai que dans un mode je développe une appli normale, c'est quand même assez utile. J'ai juste gueulé sur l'autocomplétion. Parce que l'autocomplétion, qui est censée être par relevance, donc par des choses qui est le plus utile, en fait, c'est globalement par ordre alphabétique. Donc, quand vous avez un objet avec plein de super classes et de choses comme ça, en gros, vous avez 100 000 méthodes qui sont affichées. Et même quand vous avez un objet de type API fluide, vous avez quand même genre wait all toString, enfin tous les trucs d'objets qui servent pas forcément, voilà, notify all, voilà, qui servent pas à grand chose. Et donc il y a des gens qui ont parlé d'un petit plugin, je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais qui permet justement, basé sur l'analyse de code, de dire bah là il y a 43% de chances que vous vouliez celui-là, et donc pour le coup de l'afficher en premier. Mais c'est un plugin qu'il faut rajouter à Eclipse, qui n'existe pas de base. Voilà. Cela dit, IntelliJ, c'est pas top non plus. Ils affichent quand même en gras les méthodes de la classe, enfin de l'instance, ouais, sur laquelle on y est, donc on les repère un peu plus facilement. Mais disons qu'il y a moyen de faire mieux, et c'est dommage que les IDE soient un petit peu arrêtés à ce niveau-là.
C'est vrai.
Voilà, sinon Cloudera, voilà, ils ont sorti une intégration avec Lucene, donc ils ont repris en interne la capacité à chercher les données que vous avez dans votre système de fichiers HDFS. Vous allez pouvoir faire des recherches. Je crois que c'est une intégration avec Sola ou Lucene ou les deux. Donc après, le blog, il est un peu marketoid, mais voilà. Pour les gens qui utilisent Cloudera là-dessus, qui est une distribution Hadoop, hein, ça peut être intéressant pour vous.
Mais Hadoop, c'est pas nouveau, hein, parce que déjà les rois adoubaient les ouais. chevaliers.
Bon. Ouais. Non mais bon. En plus c'était en
copra et en montage
et au niveau de en Méditerranée ils adoubaient, c'est pour ça qu'il y avait le H.
D'accord.
Oh, le niveau monte.
Ah, on se chauffe.
Allez, qu'est-ce que ça va être en fin d'épisode?
Voilà.
Sans transition. Bon,
voilà, c'est ça. On va faire une petite pause publicitaire.
Voilà, jingle.
Ouais, c'est vrai. On a toujours pas de jingle. Donc on va vous parler d'Octo, qui est non seulement un sponsor du site web, mais maintenant aussi sponsor du podcast. Alors je pense que vous avez déjà entendu parler d'Octo à travers nous, c'est les gens qui font l'université du SI notamment, qui est la semaine prochaine. Et puis il y a des anciens, les cascodeurs sont même trustés par des anciens Octo, on va dire. Arnaud aussi, hein, il était...
Du coup il y a une majorité d'Octo, hein.
La vache, il y a que Antonio et moi qui n'y étions pas finalement.
Pas encore.
Bon bah oui, voilà, c'est toujours possible, hein.
C'est ça. Voilà, donc Octo, c'est une boîte sympathique qui se positionne justement sur les sujets dont on parle chez nous ici régulièrement, notamment l'agile qu'ils ont démarré en 2000. Alors ils m'ont dit 2002, mais en fait Vincent me disait non, on a démarré dès 2001.
Ah ouais, j'ai fait un premier projet en 2001 en Angleterre, Octo UK, où j'ai démarré en agile. Et même on a même de l'agile offshore en fait. C'était une variation même pour pouvoir faire ça à distance.
C'est trop facile l'agile tout court. En fait. Voilà, en tout cas tous leurs projets sont faits en agile en ce moment. Enfin. Maintenant, ils font aussi du Lean, Lean Startup, du DevOps, Big Data, notamment parler d'Hadoop un petit peu avant, Mapper, Machine Learning, etc. Moi, je trouve que c'est des gens qui arrivent à pousser chez leurs clients justement des technos dont on entend parler, mais qu'on voit pas forcément chez les comptes français. Voilà, sinon c'est les contributeurs sur l'écosystème Java qu'on connaît, donc Guillaume avait démarré les contributions Groovy, je pense qu'il était encore chez Octo, Maven pareil, Java, donc ça continue dans cette lignée là et puis il y a un certain nombre de personnes et la boîte pousse au niveau du software craftsmanship dont on a parlé un petit peu dans les épisodes précédents. Donc ces gens là ils essaient de raisonner un petit peu différemment quand ils arrivent chez un client, essayer de trouver les logiques de transformation, de création de valeur à tous les niveaux du SI, archi, projet, produit, les équipes, enfin bref, comment amener de la valeur au client. Et même quand c'est un projet où il y a 15 jours, c'est la catastrophe, truc ultra pompier. Donc voilà, si vous êtes un peu dans ce mood-là, contribution, partage, etc. Donc voilà, Octo, c'est une boîte, une tribu sympathique sur laquelle vous pourriez bien vous amuser.
Mais on n'est pas obligé de mettre de plumes, hein. C'est pas parce que c'est une tribu
c'est ça, c'est pas une tribu d'oiseaux, quoi.
Voilà.
Voilà, ils ont un super site web.
Qui a été refait récemment d'ailleurs,
voilà.
Nouveau logo, tout ça, nouvelle charte.
Nouveau un message bien clair, donc je vous encourage d'aller le voir au moins, octo.com, www.octo.com. Voilà, donc la pub est finie.
Ouais.
Moi je voulais rajouter par-dessus que Octo, moi je connais un certain nombre de gens qui sont chez Octo, qui sont passés chez Octo, et c'est un peu un générateur de boîtes de projets, quoi, donc... Guillaume avait travaillé sur Groovy, ensuite avait pu se lancer à temps plein. Il y a des gens comme Mag qui, pareil, avait pu lancer leur boîte à mi-temps au début, puis après se lancer à temps plein. Donc c'est un tremplin intéressant et ils encouragent ce genre de choses. Donc c'est sympa.
Ouais, c'est vraiment une super boîte. Moi, je suis rentré en 98 au début de la création d'Octo et je suis resté quelques années. Ils m'avaient laissé monter Octo UK. C'était pas rien. Et vraiment, vraiment super boîte où beaucoup d'émulation, des gens super smart et un management super smart qui te permet de progresser et de pousser tes idées innovantes, quoi. Et ça, c'est super. Alors, je sais pas comment c'est maintenant, mais j'imagine que c'est pareil.
Par contre, le seul bémol, c'est faut être une star au babyfoot, quoi. Là, je veux dire, il n'y a pas. Parce que si t'es une bite,
François, si t'es pas capable de battre François, t'es pas embauché. Hein.
Attends, faut pas le battre, sinon tu vas tirer quand même.
Oui, mais faut être juste limite, tu vois. Juste limite pour montrer que tu pourrais, mais qu'il a été plus fort cette fois-ci, quoi.
Bah, c'est vrai qu'il reste très très fort quand même.
C'est peut-être pour ça que je peux pas aller chez Octo.
C'est clair. Donc, sans transition, parlons un peu de mobile avec Android Studio.
Ouais. Tu l'as lu le blog ou pas?
Je l'ai parcouru rapidement. Donc, Alex Ruiz, qui fait partie de l'équipe aussi qui travaille là-dessus, chez Google.
Ouais.
Qui
est super sympa. Je sais pas si vous le connaissez personnellement.
Je l'ai déjà rencontré une fois, il y a longtemps, je crois. Et c'est aussi le beau-frère d'un ami de la communauté Groovy.
D'accord.
Donc le frère de la femme d'un... Ouais, bref.
Et c'est le cousin d'Olivia aussi.
Non, je crois pas. Non, c'est... oui, ou ça, ça doit être son frère, ou son... je sais plus si c'est son frère ou son cousin de la femme d'un des copains qui fait Griffon.
D'accord.
Donc voilà. Et donc il revenait un petit peu sur Android Studio. Donc Android Studio, c'est donc on en a parlé, hein, dans le dernier épisode. C'est le nouveau environnement pour développer des applications Android qui est maintenant basé sur IntelliJ IDEA. Donc dans ce blog-là aussi, hein, il précise que ça ne veut pas dire que Eclipse ADT est complètement abandonné. Ils continueront de le développer, mais on n'aura pas forcément les mêmes capacité du fait des limitations de JDT dans Eclipse, quoi.
Voilà. Et le système de build aussi. Ah, c'est peut-être lié à JDT, cela dit.
Peut-être aussi, et donc le fait que le build des projets est basé maintenant sur Gradle,
ouais.
et non plus sur le Ant, qui n'était pas toujours facile à étendre et réutiliser, je crois. Alors comme je n'ai pas d'expérience au niveau développement Android, je n'ai pas vraiment vécu de souffrance par rapport à ça. Mais...
Ouais.
Donc évidemment, je suis content qu'il y ait plus d'utilisation de Gradle, évidemment, vu que ça utilise Groovy comme langage de DSL. Et en tout cas, c'est, vu ce que j'en ai vu, en tout cas, ça permet de créer des builds qui sont assez lisibles. Avec un, on a vraiment l'impression d'avoir un mini-langage pour expliquer, voilà, j'ai des flavors, des... Comment on pourrait
faveurs,
dire
des saveurs, pardon.
Des saveurs différentes. Par exemple, voilà, je fais un build pour telle plateforme, un autre build pour telle autre plateforme, et de manière très déclarative, en fait. On peut décrire correctement ce qu'on veut faire, les différentes builds qu'on veut faire en fonction des plateformes qu'on veut, qu'on cible, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est assez puissant.
Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous encourage à aller sur le site des Cascodeurs, enfin le groupe des Cascodeurs. Il y a déjà un thread de 2000, de 2000 ouais. entrées dessus. N'hésitez pas à ajouter votre pierre.
Ce serait dommage de passer à côté. Oui.
Voilà. Sinon, ouais. ils ont dit aussi qu'ils avaient dû, en gros, forquer et changer un petit peu le core d'IntelliJ. Mais l'idée, c'est de recontribuer ça pour après que ça devienne un plugin au sens un peu plus ouais. normal d'IntelliJ. Mais aujourd'hui, c'est deux codebases légèrement différentes.
Ouais.
Et sur, tiens, j'en profite sur le sujet du mobile. Je vais annoncer la sortie d'une application mobile pour XWiki, ouais. pour iOS et Android. Et donc, je mettrai les liens. Et c'est assez sympathique.
Et du coup, tu mets l'URL vers de ton wiki. Et...
Voilà, exact. Donc, tes wikis, parce que tu peux faire du multi-wiki. Tu vois, tous tes wikis, tu as des notifications, des changements. Tu peux faire des recherches, tu peux écrire du contenu même si tu as envie, mais bon, je pense que c'est plutôt de la navigation que de la contribution.
Par exemple,
dans ce mode-là.
Si je voulais écrire en Markdown dedans, ça serait pas forcément optimisé pour ça en termes d'interface.
Bah, disons que c'est le mobile et pas optimisé en termes de ça pour produire du contenu. C'est du coup, en revanche, ce qui est intéressant comme use case, c'est genre, tu prends une photo et tu veux l'attacher à une page pour documenter quelque chose, des choses comme ça.
Ouais.
Là, ça peut être intéressant, mais ouais. taper du texte, beaucoup de texte, c'est pas. C'est... Ouais. Je pense pas que ce soit le bon
usage. Photos, vidéos, etc. C'est plus facile sur un mobile que sur un ordi. Bah peut-être parce que prendre une photo sur un ordi, c'est quand même. Pas... Tu sais, tu prends ton Mac et tu le montres. Attends, je prends la photo de Saint-Pierre. Bon, c'est une blague par. Par sujet.
5 minutes. Par sujet. Par thème.
Par thème, voilà.
Parce qu'après, le clou du spectacle, c'est peut-être l'histoire avec la NSA.
Ouais.
Donc, Big Brother is watching you.
Ouais.
Ouais, mais bon, tout le monde a vu ça, je pense.
Tout le monde a vu ça.
Ouais, mais c'est quand même. Alors, en fait, il y a eu deux scandales, les gars, qui étaient bons. C'est que. Alors, c'est quoi les deux? Je ne me rappelle plus.
Lequel est le pire?
Non, mais la question, c'est est-ce que vous, pour en lancer un débat, est-ce que vous, ça vous gêne?
Sur le principe, oui, dans la pratique, non, mais.
Voilà, sur le principe, je suis d'accord. Principe, oui, dans la pratique, on sait bien de façon qu'on n'est pas dupes, déjà.
C'est pas tellement étonnant, quoi, mais bon.
Mais cela dit, moi, du coup, j'ai recherché comment on encryptait, des choses comme ça, etc. Donc, parce que la dérive potentielle, c'est, bon, la NSA, machin, bon, il y a toujours eu des tendances dans les années, je sais plus, 70 ou la fin des années 70, il y a eu un revers où ils butaient tous les dictateurs ou les mecs un peu trop de gauche qui étaient notamment en Amérique du Sud, et bon, ils ont fini par, ça a fini par se voir, et donc, ils ont été un petit peu ficelés à ce niveau-là, et puis là, ça repart un petit peu comme en l'an 40. Donc on verra, mais la dérive, c'est que bon, la NSA au niveau de la sécurité nationale, ok, mais après, quelle est la différence entre la sécurité nationale et la sécurité économique et l'espionnage économique, et voilà, donc ça peut dériver en fait assez vite, et on se dit bah voilà, s'il y a effectivement un tuyau qui peut aller de Google où j'ai mis ou d'Amazon, ce serait plus intéressant, où j'ai mis mes données d'entreprise et où j'ai garanti à mes clients que c'était safe, bah qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Voilà, donc ça c'est une bonne question. Je me demande si ça va pas freiner le déploiement du cloud en entreprise et ou renforcer plutôt le fait de vouloir une version en Europe, si t'es européen, une version en Chine, si t'es en Chine, enfin en Chine, bon, c'est un autre débat, mais voilà. Et de pas mettre ses données chez Amazon en la côte est et puis basta. Ou alors de vouloir encrypter les choses, mais ça pose des problèmes de lecture après, de requêtes. Enfin, il y a pas mal de sujets là-dessus.
Ouais, je suis pas sûr quand même que ça va. Parce que je veux dire, quand on a vraiment un besoin cloud, est-ce que ça va vraiment nous freiner pour autant? Je sais pas. C'est quand même une bonne question.
En fait, ce qu'on verra, c'est comment les clients réagissent quand tu leur dis « Ah non, mais moi, c'est dans les nuages » et qu'ils te disent « Ah ouais, mais moi, je veux pas que
les données soient accessibles. » Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas... Enfin, je veux dire, par exemple, on va dire Airbus, par exemple, ou tu sais, des entreprises qui sont, comment on pourrait dire ça,
complexe militaro-industriel.
Ouais, complexe militaro-industriel et qui est quand même lié aux différents gouvernements des différents pays parce que, voilà, quoi, c'est des aspects stratégiques. Du genre, moi, si je fais ma petite start-up qui fait de la vente de bonbons en ligne, bon, c'est pas très très grave s'ils se rendent compte que j'ai acheté 10 tonnes de fraises Tagada moins cher qu'ailleurs.
Non,
tu vois.
Mais si. Si c'est matière de sécurité nationale de savoir qui bouffe trop de bonbons pour pouvoir lui couper son assurance maladie. Ah, voilà.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, en soi, une liberté de la sorte donnée comme ça. Au gouvernement ou à n'importe qui, parce qu'on ne sait pas qui peut tomber au final là-dessus. Ouais. C'est quand même assez dangereux de toute façon.
Parce que après, là, les gens, ils n'y croient pas trop, tu vois, parce que bon, la NSA, ils ne le crient pas sur les toits, là. Ah, on peut vous espionner, nanana.
Bah, bien sûr, pourquoi ils le feraient?
Oui, non, mais du coup, en fait, t'as un petit côté genre, ah non, mais tu crois à la théorie du complot, etc., etc. Et donc, quand ce genre de scandale ressort et que finalement, on s'aperçoit que c'est la vérité, ça donne un petit...
Puis je veux dire, on sait que c'est la vérité, vu la gueule du PowerPoint, ça peut pas être un truc fait par des geeks
c'est clair.
Qui ont fait une blague, quoi. Ils auraient fait des plus jolis PowerPoints.
Donc ça, le PowerPoint, c'était en gros les tuyaux ou l'accès direct à des sociétés de type Apple, Google, bon, y avait la Total, même AOL. AOL en 2011, non mais allô quoi, le truc, ils se mettent à pouvoir accéder aux clients AOL à partir de 2011. Il n'y en avait déjà plus.
Enfin. Et Palto que tu connaissais hein?
Non.
Je connaissais même
non,
pas.
Non, je connaissais pas non plus. Et l'autre truc, c'est qu'effectivement, ils prenaient toutes les métadonnées de Verizon, donc pas les appels en tant que tels, mais qui tu as appelé pendant combien de temps, d'où, etc. Et à partir de ça, ils font du data mining, en fait. Ils détectent des patterns un peu suspicieux ou des choses comme ça.
Mais bon, c'est de la vraie big data.
Ça,
quoi,
c'est de la vraie big data, ouais. Tu
m'étonnes. Parce que là, mais les quantités de données que ça représente, c'est quand même assez incroyable.
Tu sais sur quoi ils le font tourner, ça? Sur PyCloud.
Ah, non, la transition. Donc, sur un cloud de Raspberry.
Voilà. Paris. Donc, c'est pas vrai, mais il y a une université, en fait, qui fait une expérimentation pour prendre des Raspberry Pi, vous savez, les petits trucs qui coûtent entre 20 et 35 dollars. Et ils ont construit carrément un data center là-dessus. Mais le data center, vu que les Raspberry Pi, c'est tout petit rikiki, en fait, il est fait en Lego. Avec les cartes qui sont mises sur les Lego. Et voilà, et ils testent le côté réaliste de ce truc-là. Donc, c'est assez intéressant. Notamment, aller voir la photo sur TechCrunch, c'est marrant. C'est les mêmes couleurs que Google, en plus. C'est ça qui est bon. Parce que Lego, Google, voilà, bon, c'est les couleurs enfantines, quoi. Enfin, qui font réagir les enfants.
Non, c'est chouette ça.
Voilà. Sinon, voilà, il y a Google, Apple, Twitter, etc., qui ont pas mal nié le fait que la NSA avait un accès direct à leur serveur, qu'ils étaient censés montrer un truc de la justice et que, en fonction de la demande de la justice, à ce moment-là, ils donnaient l'information.
Mais par exemple, donc Yahoo avait expliqué qu'en fait, eux, ils s'étaient opposés donc légalement. Hein. Par rapport à ça et qu'ils avaient perdu et donc
ouais et en plus
implicitement
le truc pervers aux États-Unis c'est que c'est des lettres qui fait que tu la reçois et t'as plus le droit d'en parler en fait t'as pas le droit de dire que tu l'as reçu tu peux aller en justice mais c'est une justice secrète et donc finalement tu peux pas nier ni dire ni quoi que ce soit que t'es en train de travailler sur le truc et donc ils ont quand même réussi à accepter de que le gouvernement accepte pardon de donner une ordre de grandeur. Donc selon les boîtes, c'est entre 3 et 10 000 requêtes en gros par an. Mais ça inclut tout le monde, FBI, recherche des enfants perdus, NSA, la totale.
Mm-mm.
Bref.
Mais du coup, la recherche des enfants perdus, est-ce que Peter Pan...
Tu t'enfonces.
D'accord. C'était pour revenir sur le thème un petit peu enfantin.
C'est ça, pas mal,
de fond.
Pas mal.
Ça dit, d'ailleurs, ils sont endormis, là, Arthur.
Ouais, ils dorment. Bon. J'ai même éteint la petite musique de fond. Cela dit, en France, il y a un truc aussi. Donc, il y a chaque entité qui pouvait demander à Bouygues, etc., des informations avec l'acceptation de la justice. Et il y a une plateforme qui est censée être développée par Thales qui unifie ça, qui est censée de réduire les coûts, etc. Et il y a eu un mini scandale parce qu'en gros, c'est un peu le bordel, c'est pas vraiment redondant. Enfin, le système de backup, il est à 50 mètres, donc bref. C'est pas forcément idéal. Et donc, il y a eu aussi un mini-scandale à la française autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est le secret qu'on veut forcément mettre autour de... Enfin, que les gouvernements veulent mettre autour de ce genre d'informations. Quoi.
Ouais.
C'est la vie.
Dans quel monde vit-on ?
Ouais. Mon pauvre monsieur. S'ils mettaient tout sur GitHub, on n'en serait pas là.
Ouais.
D'ailleurs, il y avait une blague sympa du mec de GitHub qui disait ouais. Je dois l'annoncer, la NSA a eu accès à tous les repositories GitHub depuis des années.
Et puis moi j'avais tweeté un truc, il y a une petite librairie qui est sympa qui s'appelle PrismJS qui fait du syntax highlighting en fait.
D'accord.
En JavaScript. Et donc, moi, j'ai dit, et en fait, est-ce que la NSA sait qu'on peut forquer Prism sur GitHub? Et du coup, bah, j'ai pointé vers le repository de cette librairie-là.
Et du coup, il y a ton réseau qui a diminué de 30% en capacité.
Ouais, je sais pas. Oups. Ah, j'ai eu pas mal de retweets. Ouais.
Tu voulais dire un truc, Vincent?
Non, rien du tout. Okay. Non, juste que sur GitHub, tu peux avoir des repos privés.
Oui, non, mais ok. Il a résumé, quoi. Ok, voilà, sinon, j'avais mis des petites idées de débat, et que ça vous intéresse
Alors, Backbone.js.
Ça, c'est plus un coup de gueule, en fait.
Ah, c'est quoi le coup de gueule sur Backbone.js?
Bah, c'est horrible, on dirait Struts 1.
Ah,
c'est juste.
Ah, je connais, j'utilise pas, je sais pas, j'ai pas d'avis.
Bah après, c'est pas très très joli, et puis en plus t'es obligé de choisir plein d'extensions pour vraiment faire des choses utiles.
Ouais, et puis dès que t'as un truc bizarre, mais... genre ah bah l'événement il a été avalé pour une raison ou une autre, t'es paumé quoi.
Ouais, mais par exemple là il y avait un article, alors je l'ai pas rajouté dans les show notes, qui comparait Angular, donc qui est un peu le nouveau truc à la mode, etc.
Ouais.
Donc fait par Google, donc c'est forcément bien, etc. C'est pas toujours le cas. Mais en l'occurrence, Angular est vraiment sympa, mais ils prennent aussi des raccourcis ou simplifient certaines choses, et il y avait un post que j'ai vu passer ce matin où ils comparaient Angular et Ember,
ouais.
Et où en fait Ember faisait les choses finalement plus proprement, même si de mémoire quand j'avais regardé Ember, ça me plaisait moins que Angular.
Ouais.
Mais c'est vrai que peut-être quand tu fais des choses moins triviales...
Mais non, mais il y a l'effet simple, voilà, c'est ça, exactement.
Il y a la différence entre la trivialité et pouvoir faire des choses propres pour des cas complexes, quoi. Et t'aider à prendre des bonnes pratiques plutôt que de ne pas avoir de bonnes pratiques parce que le framework ne t'aide pas à en prendre, quoi.
Ouais. Moi c'est ça, c'est que Backbone, alors des exemples de to-do list, ça c'est bon, hein, y en a plein, mais dès que tu commences à avoir un truc un peu plus compliqué où faut réagir de manière un peu plus custom avec le back-end qu'il y a derrière, t'es obligé de, enfin Dieu merci il y a Stack Overflow quoi, mais sinon t'es mal, hein.
Bah ouais. Mal.
Donc en Angular, moi j'ai pas joué avec.
Ouais, j'ai pas encore, j'ai juste vu les différents tutoriels, etc. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas eu à faire des choses très complexes, ouais. Tu vois.
Cela dit, AngularJS, je sais pas comment. Ça ne marche pas bien ou pas avec jQuery mobile pour l'instant. Voilà.
D'accord.
C'est un peu le dependency L version JavaScript.
Ouais.
Voilà. Sinon, c'est un sujet qu'on a reculé pendant des épisodes et des épisodes. C'était le débat sur la documentation. AsciiDog versus Wiki versus Markdown, etc.
Ouais, j'aimerais bien qu'on mette AsciiDog et XWiki Rendering aussi dans la même phrase.
D'accord.
Ça va bien.
Bah, vas-y, alors, c'est un wiki, hein, tu peux le rajouter. alors, moi, j'ai pas mal poussé pour Markdown, vous le savez, c'est pas...
Ouais, et tu m'as fait prendre le mauvais cheval, Emmanuel?
Non, je pense encore que pour des pages simples, ça reste bien. AsciiDog, c'est vrai qu'il y a des éléments intéressants.
Pour une documentation complète, par exemple, AsciiDog, c'est quand même pas mal.
Ouais, voilà. Pour une doc où t'as besoin de références d'un endroit à l'autre.
Des références croisées, des choses comme ça.
Ah, wiki, tu veux dire.
Ouais, si tu veux, comme un wiki, ouais.
Comme un wiki, mais qu'on peut convertir en EPUB.
Exporter, quoi. Voilà. Ouais.
Ouais, bon, c'est pareil, tu exportes.
Comme un export. Oui, okay. Un export d'un wiki, ouais.
Ok, et ouais, c'est intéressant.
Pardon, vas-y.
Je dis intéressant à AsciiDog, ils ont l'air d'être bien dynamiques en tout cas, la communauté.
Ah ouais, c'est super dynamique, ouais.
Et à chaque semaine, il y a de nouvelles annonces de trucs.
Exactement.
Donc là, la dernière, c'était de pouvoir écrire ta JavaDoc en AsciiDog avec une doclet spécifique.
Ouais.
Et donc, du coup, effectivement, dans l'XWiki Rendering, qui est un moteur de rendu qui supporte plein de syntaxes, aujourd'hui, il y en a une qui ne supporte pas encore, c'est AsciiDog. Donc du coup avec tout ce que je vois là, je me dis il va falloir qu'on le supporte à un moment donné.
Alors la complexité, ah oui, parce que non, toi tu veux la conversion.
Non, mais je passe sur un parseur existant. Ouais. Non, j'ai pas de souci, il faut juste que je trouve un parseur Java existant qui soit assez bien.
C'est ça,
assez
le
bon.
Truc, c'est que la première version elle était en Python, ensuite ont redéveloppé le truc en Ruby plus rapidement. Et là maintenant il y a des expérimentations pour faire une version Java. Alors je sais pas si ça utilise Ruby ou JRuby, mais
non, il y a une intégration Java qui existe
et qui est au-dessus de
qui est au-dessus, mais derrière c'est toujours du Ruby.
Ouais, c'est ça. C'est au-dessus d'AsciiDog.
Ouais. Après j'ai vu une librairie Java pour AsciiDog, mais qui n'est pas activement développée et qui n'est pas parce que AsciiDog, enfin. Quand je dis AsciiDog, je pense à AsciiDoctor, en fait, donc la librairie Ruby, évolue pas mal, et puis il y a des choses qui ne sont pas dans le AsciiDog d'origine, et qui ne seront pas non plus, par exemple, dans la petite librairie Java que j'avais trouvée.
Ouais, sachant que l'AsciiDog d'origine, il est déjà hyper complet, il y a des macros, des trucs, c'est pas la petite...
Donc moi, j'attends une librairie Java pour le faire, puis après je l'intégrerai. Mais sur le sujet, c'est intéressant, parce que ce sujet de pouvoir documenter la JavaDoc en AsciiDog, en revanche, ça m'a interpellé. Je me disais que pour XWiki, c'est pareil, ce sera intéressant qu'on documente notre JavaDoc de XWiki en syntaxe XWiki, en syntaxe en markup, du coup. Et donc, ça, je l'ai mis en to do pour faire dans un 20% time. C'est intéressant. En revanche, il y a quand même
c'est
quand
comme
même
chez nous, le 20% time, c'est le dimanche après-midi.
On a quelques hackathons de temps en temps. Et il y a un point auquel il faut faire attention quand même. À partir du moment où tu as ça, tu as quand même pas mal de sites divers et variés qui reprennent tes artifacts, etc. et qui t'exposent ta JavaDoc.
Voilà.
Et du coup, ils vont pas avoir ta doclet.
Ouais.
Et du coup, si ton truc il est considéré comme une même ligne, tu vas te taper tu vois, toute ta liste avec ton étoile machin qui va être sur une seule ligne et du coup, pour le coup, carrément.
Exactement. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui m'inquiète, c'est le seul point qui m'inquiète en fait.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le problème de l'existant et de la réutilisation.
Mais après, est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui utilisent?
Bah, il faut arriver avec ton outil.
Moi, ça m'arrive. Alors, soit je suis dans mon IDE et il y a les sources et voilà. Mais sinon, naviguer des API.
Ah si, moi, j'en fais tous les jours.
JavaDoc, ouais, carrément.
D'accord. Ok.
Et c'est pas forcément après, sur le site parce qu'il y a des sites mieux référencés comme Grept ou Java.
Oui, voilà. Dockjar et compagnie. Ouais. Mais du coup, est-ce que, je veux dire, si on ne fait rien, on va pas spécialement attendre que tout le monde s'adapte pour autant, quoi. Je veux dire, sinon on fait jamais rien, quoi.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On fait un nouveau langage.
Non, la connerie, c'est que Java n'évolue pas non plus et garde ce format qui est quand même super naze.
Moi, je le trouve pas si naze que ça. Je comprends que c'est un peu awkward, mais le truc de base qui est, t'as quelques conventions et le reste, c'est plus ou moins de l'HTML, bon.
C'est l'HTML qui est bas, c'est ce qui est naze. Écrire en HTML, c'est horrible. Et puis, le merge est pas très bien choisi. Le truc classique, par exemple, c'est mettre des exemples de code dans la JavaDoc. Ça, c'est le truc qui a le plus de valeur. Bon, c'est extrêmement compliqué à faire.
C'est pas simple.
Mais par exemple, nous, en parlant de ça, justement, dans le projet Groovy, On avait fait un petit truc qui est assez sympathique. Donc, bon, pour, quand tu mets du code, effectivement, bah, tu te fais ta balise pré-code ou je sais pas quoi.
Ouais, mais tu es quand même obligé d'encoder tes inférieurs, supérieurs et compagnie.
Ouais, c'est un petit peu pénible. Enfin, non, quand tu mets pré autour, t'as pas besoin de les encoder, je crois.
J'ai pas trouvé de solution, il me semble, de mémoire.
Faut que je revérifie alors si c'est ce qu'on a fait.
Peut-être c'est data qui
Non, même pas, sans ces data. Enfin, je crois pas, je revérifierai. Mais ce que je voulais dire là, c'est enfin un petit peu connexe à ça, c'est qu'en fait, nous, on met une classe particulière sur ces balises de code-là. Et en fait, on a un test unitaire particulier qui va grepper tous les bouts de code dans certaines classes, pas dans toutes les classes, mais en tout cas dans certaines classes particulières où on a plein de méthodes utilitaires, c'est-à-dire les méthodes d'extension qu'il y a dans Groovy. Et en fait, on transforme ça en test unitaire. Donc, ce qui fait que dans, par exemple, toutes les méthodes d'extension qu'on a rajoutées sur, je sais pas moi, sur string, sur différentes classes, en fait, les bouts de code qu'on voit dans la Java doc, on les a extraits pour les tester et pour vérifier qu'ils fonctionnent. Donc, la doc, l'intérieur des, enfin, les exemples de code dans la Java doc de ces classes-là sont testés et approuvés. Non, lui est approuvé. Et fonctionne par rapport à l'implémentation qu'on a faite. Donc, c'est assez rigolo. Et c'est le genre de choses que j'avais, tu vois, avoir une syntaxe à la wiki, avoir des, une manière d'extraire des bouts de code pour les tester. Tout ça, c'est des petites améliorations qui seraient sympas de voir dans Java, quoi. Oui, dans Java doc.
Ouais. Good. On passe aux outils.
Ouais, les outils de l'épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, moi, je voulais juste parler de... En fait, j'ai intégré à Hibernate Search une application et du coup, je récupère... commençais à faire de la recherche géolocalisée. Mm-hmm. J'ai appris comment récupérer la géolocalisation à partir d'un navigateur. Et ça m'a bluffé de simplicité, en fait. Donc, en gros, hein, c'est en deux lignes. C'est... Vous avez un objet navigator, vous faites .geolocation, ça vous répond si oui ou non le navigateur supporte ça. Mm-hmm. Et après, vous faites navigator.geolocation.getCurrentPosition. Et là, on passe une fonction qui marchera quand on aura, si on a la position, et une fonction qui sera exécutée si il y a une erreur ou si on n'a pas la position. Et en gros, la position après, bah, c'est juste les coordonnées, hein, latitude, longitude, et vous avez fini. Et c'est juste impressionnant de simplicité de récupérer la localisation maintenant, quoi. On devrait le mettre cool. Dans plein d'applis. Dès qu'il y a une utilisation potentielle, on devrait carrément l'utiliser, quoi.
Mm-hmm. Autre outil assez rigolo que j'ai vu là, bah, c'était ce week-end, je crois, que j'ai vu passer ça, ou vendredi. Instantserver.io.
Oui.
En fait, vous allez sur le site. Il y a un gros bouton vert « Get a free server ». Et en fait, il va vous lancer une instance, une micro-instance de chez Amazon EC2. Et vous avez votre petit Ubuntu et tout ça. Et vous pouvez faire ce que vous voulez sur le serveur.
Pendant 35 minutes.
À part que vous avez 35 minutes pour l'utiliser. Mais sinon, c'est gratuit, évidemment, pour ces 35 minutes-là. Donc, quand tu veux tester un petit truc rapidement sur un serveur à distance, etc., je trouve ça assez rigolo.
Donc, ouais, c'est fun, t'as même un shell dans le navigateur.
Ouais. Si envie. Par contre, je sais pas si tu l'as testé.
Et il vous file une clé ou ouais, c'est genre.
Ouais, il file l'IP, username, un mot de passe et l'IP.
Username, password. Mais par contre, moi, donc, quand je voulais utiliser avec le shell comme ça dans le site web, par exemple, j'arrive pas à faire le caractère pipe. Donc, je voulais faire. Par exemple, je voulais utiliser, installer l'outil GVM, qui est l'outil pour gérer les différentes versions de Groovy, Gradle, etc., les installer automatiquement et tout. Et en fait, pour installer ce truc-là, fallait utiliser, tu sais, comme on voit souvent en ce moment, pour installer un truc, tu fais curl du truc, pipe bash pour l'exécuter.
Ouais.
Et en fait, ça marchait pas à cause du pipe en le copiant collant aussi et en le tapant à la main. Et du coup, j'ai pas pu.
Ouais, mais tu fais dans ton shell, c'est bon.
Ouais, ouais, après, quand tu le fais dans le shell normal, ça marche évidemment.
En parlant de ça, vous, sur GVM, vous avez aussi des fichiers comme RVM, là, avec le point RVMRC qui définit la bonne version de Groovy quand tu rentres dans le répertoire ou pas?
Non, je crois pas qu'on ait ça. Par contre, après, on a quand même la possibilité de définir des versions soit par fenêtre, par tu sais, si tu ouvres plusieurs terminaux. Tu peux avoir une version spécifique pour un terminal, alors que la version...
Ouais, mais là, tu l'exécutes et elle est valable pour ta session, c'est ça?
Ouais, ouais. Donc, t'as ça, mais par contre, ouais, je crois pas qu'il y ait ça. Mais ça peut être une feature
request. Je trouve ça sympa parce que, ouais. Donc, moi, j'utilise OStruct avec des versions différentes.
C'est
un petit générateur de site web statique. Et justement, bah, selon les sites web que j'ai, c'est pas forcément les mêmes versions de OStruct, etc. Ouais. Donc, littéralement, quand je rentre dans le répertoire, boum, ça me, après, je peux le changer, mais en tout cas, par défaut, ça me met,
c'est
la version définie. Ça permet de,
pas mal.
Parce que là, alors, en parlant de dépendance et de, d'enfer de dépendance, Ruby, c'est pas mal aussi, quand même, aussi.
Effectivement. Autre outil très sympathique que je viens juste de découvrir, artifact-listener.org. Donc ça, c'est quand vous voulez être notifié de l'apparition, par exemple, d'une nouvelle version de XWiki Rendering, de Hibernate Search, etc., qui a été remontée dans Maven Central. En fait, tu peux t'inscrire et puis dire, voilà, je veux savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle version de telle librairie pour pouvoir mettre à jour, toi, tes dépendances dans ton projet, ou parce que tu attends qu'il y ait une nouvelle version qui soit sortie parce que ça corrige tel bug qui t'affecte dans ton projet. Donc, c'est un nouveau petit projet assez sympa.
C'est dommage que ça soit pas sur de base, quoi.
Et ça doit, ouais, c'est vrai que ça devrait être de base.
En fait, il y aura un intérêt à ce truc-là s'il regardait tous les trucs, genre le repo JBoss, le repo Spring. Enfin, même si nous, on a tendance maintenant à repousser l'information dans Maven Central,
ouais.
Mais
ouais.
C'est vrai qu'il y a eu un moment, une explosion de repository, et du coup, avoir un truc qui te permet de centraliser ça aurait été sympa.
C'est vrai. En tout cas, c'est plutôt sympa.
Yes.
Comme petit outil.
OpenWide, c'est le nom de la...
OpenWide, yes. C'est eux qui ont fait ça.
C'est un peu... C'est limite comme nom, quand même.
Oh. Bon. Attention, ils vont pas sponsoriser.
Comme Ice White Chat.
Ouais.
Oui, c'est ça. Sinon, visiblement, je suis un gros naze, parce que ça existe depuis l'origine des temps partout, mais sur iTerm 2, donc qui est le... qu'on appelle ça la console,
terminal,
en gros, voilà, le terminal que j'utilise sur Mac. S'il y a un lien et que j'appuie sur commande, je peux cliquer dessus et ça va m'ouvrir dans mon navigateur. Et donc c'est super, mm-hmm. Parce que maintenant, comme j'utilise de plus en plus la ligne de commande, y compris pour les mails ou les chats et des choses comme ça, bah, c'est vrai que ça me sauve un peu la vie plutôt que d'avoir à utiliser un truc qui détecte les URL et les affiches en ligne de commande ou je sais pas quoi, là je peux cliquer dessus et boum, j'arrive direct.
Parce que bon, dans le terminal normal, sans utiliser iTerm 2, quand t'as une URL, tu fais bouton droit et tu peux
ça marche aussi,
à l'ouvrir.
Open URL.
Et on m'a dit pareil que sur les terminaux, genre qu'il y a dans GNOME ou les trucs comme ça, c'est pareil, où des fois t'as même pas appuyé sur la commande ou fonction, ce que tu veux.
Ouais.
Donc bref, si vous saviez pas ça, Eh ben, voilà. Maintenant, vous le savez.
Passons au Jug et conférences.
Ouais.
Il y a le CFP, là, et aussi le nouveau site, surtout, de Devox, enfin, Devox Belgique en particulier, qui est sorti. Donc, nouveau site design, très moderne. Et
très
tout
Matrix,
ça,
avec, Born to Be, avec le gars qui sort de l'espèce de truc gluant de la Matrix.
Avec tout, comment dirais-je, ouais, tout gluant, là, avec l'ordinateur dans les mains, qui ressemble quand même à un Mac. Mais... Et donc, il y a le CFP, si vous voulez soumettre et parler à Devox, vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est aussi dans le style des sites avec beaucoup de scrolling vertical, avec des bandes de toutes les couleurs. Mais qui est assez sympa. Alors après, on aime ou on n'aime pas ce genre de site-là, mais... Okay, j'ai trouvé assez joli.
Ouais.
Pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a
Jug Summer Camp.
Ouais, qui ont leur Call for Paper aussi.
20 septembre.
Et là, il faut se dépêcher parce que le Call for Paper, il va finir vite puisque la présentation, elle est fin septembre. C'est-à-dire bien avant Devox, en l'occurrence.
Mm-hmm.
Idéalement, il va faire beau. C'est à La Rochelle. Et voilà, bah, c'est sympa. Moi, j'y avais été là il y a 2 ans. Je crois. C'était la première fois, ça s'était super bien passé. Je sais pas si vous y avez.
Non, j'ai toujours pas eu l'occasion d'y aller. Faudrait.
Non, ça sympa. Je vais
quelque chose. Ouais.
Yes. Bah écoute, on va essayer de voir si nos agendas peuvent coïncider. Ça pourrait être sympa d'être là-bas, ouais. Voilà, puis il y a une Scala I/O le 24 et le 25 octobre 2013, qui est une conférence sur Scala et la programmation fonctionnelle à Paris. Voilà.
Et c'est en même temps que SoftShake, qui est à Genève, 24 et 25 octobre également, d'ailleurs.
Ouais. Donc SoftShake, c'est plus général avec...
C'est plus général.
Ouais, le Java,
la mobilité, mais là, voilà, du Java.
Méthodo, j'imagine aussi, un peu ouais. Comme ça. Et puis, c'est beaucoup plus bleu.
Comment ça, beaucoup plus bleu?
Sur leur site web, tu verras.
Ah, d'accord.
C'est le vert okay. Qui est rempli d'un espèce de lait bleu. Hein. C'est,
d'accord.
C'est design.
Ah oui, c'est vrai, mais... D'accord.
Voilà, vous avez un mot de la fin avant que... Parce que là, je lui enfonce la tétine dans la bouche, mais ça va... ça devient chaud, là.
Non, ben, rien d'autre à rajouter. Merci de nous avoir écoutés et gros bisous à tous.
Ouais, et la prochaine épisode, ça sera la suite de l'excellente
Rémi
interview
Forax,
de
le retour.
Rémi. Voilà, Rémi, le retour. La suite, voilà, c'est ça. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais elle est...
Très bon épisode.
Vraiment ouais. Sympa et les gens ont eu l'air d'avoir bien aimé. Donc, c'est
ouais,
bien.
Bon feedback.
Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.
À bientôt.
Salut. Au revoir.